Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent au circuit de France cycliste. En 1942, un ersatz de Tour de France. En 1942, à l'époque, en pleine occupation d'une partie du pays, le vrai Tour, créé en 1903 par le quotidien Loto, ancêtre de l'équipe, est au point mort. Son organisateur, Jacques Godet, patron de Loto, a refusé de relancer la course, suspendue après la débâcle de 1940. Mais son ancien confrère à Loto, le jeune journaliste Jean Leliot, 31 ans, devenu rédacteur en chef des sports de la France socialiste, un quotidien collaborationniste apparu en novembre 1941, à un projet, poussé par les autorités allemandes, conforté par le commissaire général au sport du gouvernement, le colonel Pascot, il rêve, avec son journal, d'une course qui passerait de la zone occupée à la zone libre, roulerait en Bretagne, défierait les Pyrénées, remonterait la vallée du Rhône, traverserait la Champagne, la France socialiste, portera le projet comme Loto a porté le Tour. En juin 1942, Jean Leliot active ses réseaux. En août, après avoir convaincu les marques françaises de cycle de participer, il obtient les autorisations nécessaires. Le départ est prévu au début de l'automne, avec un parcours revu à la baisse. Malgré l'annonce d'une mauvaise météo, le jeune homme est persuadé que le public sera au rendez-vous. Après tout, la presse collaborationniste accorde une large place à l'actualité sportive, comme le cyclisme, le football, l'athlétisme, la boxe. Et le vélo est un bien commun pour les Français, redevenus piétons ou cyclistes par contrainte. Quant aux coureurs, ils ne manquent pas. Les compétitions sur route sont nombreuses dans tout le pays. L'élite des pistards professionnels, elle, se retrouve chaque week-end à Paris, au Parc des Princes ou au Veldive. Ce vélodrome couvert de la rue des Relations dans le 15e arrondissement. C'est au Veldive que les 16 et 17 juillet 1942, la police française conduit 8800 juifs apatrides raflés à Paris à la demande des autorités allemandes. Ils ont été détenus 5 jours dans des conditions terribles avant d'être dirigés vers des camps d'internement, puis déportés en Allemagne et en Pologne. À cette période de l'année, le Veldive est vide de compétition. Les championnats de France sur piste sont organisés ailleurs, au Parc des Princes, à Tours et à Reims. Quelques semaines après la rafle du Veldive, le vélodrome reprend ses activités et les spectateurs s'y pressent de nouveau. 8 décennies ont passé depuis 1942. Aujourd'hui, qu'en est-il ? En septembre 1942, l'occupant allemand met la pression pour accélérer le recours au service du travail obligatoire en Allemagne, dire non au journaliste Jean Leliot, organisateur du Tour de France, autrement dit, c'est refuser son offre, ce serait prendre le risque d'être dénoncé et donc être expédié outre-Rhin. Au total, la course réunira 72 coureurs. Peu de champions manquent à l'appel. Il y a là des Français des deux zones, mais aussi des Belges, quelques Italiens, Espagnols répartis en 6 équipes. France Sport, Dilecta, Action, Mercier, Elouette, Génial Lucifer. Dans un pays en partie occupé et soumis à toutes les restrictions, le parcours de 1700 km franchira 2 fois la ligne de démarcation et comportera 8 étapes pour la gageure de boucler le circuit en 1 semaine de Paris à Paris, en passant par Le Mans, Poitiers, Saint-Étienne, Lyon, Dijon et un final au Parc des Princes. À la clé, des étapes marathon, mais aussi 350 000 francs de primes à se distribuer. Et pour les leaders, un maillot cerclé de noir et de blanc, surnommé le maillot zèbre. Tout à gagner, ou pas, car l'entreprise suscite bien des interrogations. À l'exception de la France socialiste et de son alter ego en zone libre, L'Effort, un quotidien lyonnais, la presse émet des doutes, mais suivra l'événement. Durant les deux semaines précédant le départ, un certain M. Machuret, chronométreur officiel, parcourt le circuit pour s'assurer tant bien que mal de la logistique. Un casse-tête. Il faut trouver où et comment se restaurer. L'hébergement, les soirs d'étape, se fera dans des dortoirs d'institutions ou à l'hôtel, voire chez l'habitant. Le nombre de maillots et de boyaux est strictement compté par coureur. Directeur d'équipe, commissaire, officiel, soigneur ou mécano se serreront dans les voitures. D'autres suivront à moto. On ajoute des camions. Pour le matériel, un autocar pour la quarantaine d'accrédités de la presse écrite et radiophonique, ainsi que des tickets de rationnement pour les 200 participants. Fini la gabegie, écrit la France socialiste et Jean Lulliot en référence au Tour de France. C'est l'anneau qui joint le passé à l'avenir, promet Jean Lulliot, à la fois organisateur et reporter dans un éditorial. Il dit « Notre but n'était pas de créer une simple course cycliste parmi les autres. C'est un recours à l'épopée. C'est la première aspiration d'une France meurtrie. » Jean Lulliot est né le 15 juillet 1911 à Périgueux. Membre du PUC, il pratique le cyclisme durant sa jeunesse. Il est champion de France de vitesse scolaire en 1931. Il devient journaliste à l'auto en 1932. Protégé dans des dégranges, celui-ci lui confie la direction de l'équipe de France sur le Tour de France en 1937. En 1938, il est avec Jean Cantoine le co-auteur du scénario du film « Pour le maillot jaune » tourné pendant le Tour de France 1938. En 1940, tandis que la rédaction de l'auto fuit à Lyon, Jean Lulliot reste à Paris. Il travaille d'abord au quotidien Aujourd'hui. Il y est recruté par son rédacteur en chef. Il crée une course cycliste disputée sur la butte Montmartre, appelée Cyclocross de Montmartre. Jean Lulliot rejoint ensuite la rédaction de La France socialiste, un journal collaborationniste créé en 1940 sous le nom de La France au travail. Il en dirige la rubrique sportive et continue d'organiser le Cyclocross de Montmartre avec ce journal. En juin, il couvre le Tour d'Espagne et en revient avec la conviction de la possibilité d'organiser un grand tour malgré la guerre. Le lundi 28 septembre 1942, à 10h, le peloton s'ébranle de la rue Louis-le-Grand, dans le 2e arrondissement de Paris. Près du siège de la France socialiste, il pleut sur la capitale, et ce temps d'automne rend plus grise encore la façade du palais Berlitz, devant lequel sont réunis coureurs et suiveurs. En début d'année, la foule se pressait encore ici pour l'exposition antisémite « Le Juif et la France ». La procession bigarrée slalome dans les rues de la capitale pour rejoindre le pont de Saint-Cloud à la mi-journée, d'où est donné le départ réel. Le circuit de France, de Jean Lulliot, est au pied d'un défi immense et le peloton en bas d'une côte, celle de Saint-Cloud. Les premiers kilomètres sont un calvaire. Les coureurs s'éparpillent vite sur le tracé qui les conduit au Mans, à plus de 200 km de là. La route est en si mauvais état que les boyaux, souvent ceux d'entraînement, crèvent sans cesse, sans compter la pluie et le froid. Au ravitaillement de Nogent-le-Rotrou, dans l'Eure-et-Loir, une partie de l'importante colonie belge, 27 gaillards, est partie dans les 6 équipes, mais déjà pied à terre. Certains veulent monter dans le car des journalistes et rejoindre la capitale. 3 jours avant, ils avaient débarqué à Paris pour disputer le dimanche le Grand Prix de l'Auto, une sorte de match France-Belgique annoncé sur une boucle de 230 km en Ile-de-France, poussant jusqu'à Chartres et Dreux. Les Belges aimaient venir courir chez nous, car il y avait de meilleures primes, mais ils n'étaient pas des spécialistes des épreuves à étapes. En pleine confusion, on distribue du rab de musette à ces rebelles, ainsi que des tickets de rationnement. La fronde belge est matée. Du moins pour l'instant. Dès la première étape, on savait que ce serait une galère et il y avait peu d'assistance technique. Ce lundi après-midi, il reste moins de 70 km pour rallier Le Mans, où la foule patiente au vélodrome Léon Bollée. Le Français Guy Lapébie s'y présente en vainqueur, mais les derniers mettront bien plus d'une heure pour franchir la ligne, dans une ambiance crépusculaire. Les maillots en laine ou en fibrane sont trempés, les coureurs rincés. Guy Lapébie ne peut enfiler la tunique zébrée de premier leader. On l'a égarée. Elle sera retrouvée le lendemain pour la remettre à Louis Thiétard, le nouveau leader à Poitiers. Au Mans, cyclistes et accompagnateurs découvrent les dortoirs d'un séminaire où la plupart doivent passer la nuit. L'eau des douches est froide. Les nids n'ont qu'une couverture, les locaux sont peu chauffés. Le repas est chaud, mais bien léger, et le moral au plus bas. Faute de place, quelques suiveurs dormiront dans des voitures. Dehors, Le Mans vit sous couvre-feu. Personne ici n'a oublié qu'à la mi-mars, l'usine Renault, voisine, a été la cible de bombardements alliés. Ce circuit de France est mal parti, mais bien accueilli néanmoins par la foule. Au moment où les coureurs quittent Le Mans, le mardi matin, le public se presse place de la République. Mais les vélos, mis à rude épreuve la veille, ne sont pas tous prêts à repartir. La faute à quelques mécanos qui, après une soirée arrosée et un bon repas déniché on ne sait où, ne se sont pas réveillés. Une seule étape a suffi à griller la résistance d'une partie des Belges. Ce mardi matin, une douzaine d'entre eux, les plus jeunes, sont en gare du Mans, avec un billet pour retourner vers Paris et leur pays. La presse, hier si prompte à vanter les as belges, fustige à présent ces lâches qui ne connaissent pas le sens de l'effort. Ils ne sont pas seuls à céder. Avec 17 abandons au total, l'entrée en matière a viré au fiasco. Le départ est enfin donné à 11h30. Au menu, La Flèche, Angers, Saumur, Loudun et Poitiers. Dans les villes et villages que traversent les coureurs, c'est la fête. Ainsi, à Angliers, près de Loudun, où la commune a donné jour de congé pour saluer leur passage, l'équipe de football des amateurs de La Roche-Rigaud, héros de la Coupe de France grâce à ses joueurs mosellans, réfugiés dans le Poitou, défie les professionnels des Girondins de Bordeaux en match amical. À Poitiers, la dernière petite ascension vers l'arrivée se fait sous les vivats. Soldats allemands et badauds poitevins accourent pour voir le Belge bon duel s'imposer au sprint. Même la météo est de la partie. Il n'a presque pas plu. Le soir, un dîner de gala réunit coureurs, directeurs et commissaires. Le moral remonte, même s'il ne reste plus que 50 courageux sur les 72 parties de Paris. Rallier Le Mans depuis la capitale fut une galère. Filer du Mans vers Poitiers, une inconnue. Le troisième jour, le chemin vers Clermont-Ferrand s'annonce comme une épreuve de force. 280 km en deux demi-étapes. Au matin du 30 septembre 1942, des ombres quittent sans entrain l'école nationale supérieure du centre-ville de Poitiers, le lieu d'hébergement. Tout le monde s'est levé à 5h30 pour un départ prévu une demi-heure plus tard. Le peloton et sa caravane doivent franchir la ligne de démarcation à Jardres, à 25 km de là. Les coureurs effectuent ce court trajet groupé à petite vitesse dans les phares des voitures. Une fois sur place, les organisateurs ont prévu une trentaine de minutes pour l'opération d'entrée en zone libre. En réalité, il leur faudra patienter près de 3 heures sous une pluie fine. Ce poste de la ligne de démarcation est un endroit sensible. Le fait de passer en zone libre, en franchissant la Vienne, à quelques kilomètres de là, au bourg de Chauvigny, où doit être donné le départ réel, n'est pas anodin. Les arrestations sont fréquentes dans les parages. Cet été, la police française a démantelé un important maquis local, le réseau Renard. Un à un, tous présentent leur carte d'identité avec photo aux Allemands présents dans le poste. On vérifie les listes. Tout le monde a dû y passer. Dehors, on fouille les camions. Quelques soldats, rejoints par des habitants, observent les champions et leurs vélos. Autour de la caravane, chacun se réchauffe comme il peut avec du café, de la crème de marron et un peu de pain récupéré dans un bistrot. Vers 11h30, le peloton parvient enfin à Chauvigny. Une fois franchi le pont sur la Vienne, les coureurs voudraient tourner à droite dès que possible, puis filer vers Limoges, terme de la première demi-étape, mais la foule les attend. L'accueil de tels champions en provenance de la zone occupée est un événement pour cette commune dont le maire, Jacques Toula, sera fait juste parmi les justes à l'issue de la guerre, pour avoir en 1944 sauvé les juifs mosellans réfugiés à Chauvigny. Mais les coureurs, ce jour-là, sont pressés d'en finir. Ils abrègent la réception et roulent en direction de Limoges, où Guillier remportera la demi-étape, sous la pluie, une fois de plus. Il est près de 14h ce mercredi 30 septembre 1942 et le besoin de faire une vraie halte s'impose. Sauf que, une fois encore, la logistique déraille. Tout le monde est invité à se serrer dans le réfectoire de la grande salle du Secours National, une institution de soutien aux plus démunis et surtout un outil de propagande collaborationniste. Avec un repas, les organisateurs réchauffent leurs champions. mais il est grand temps de reprendre la route. Clermont-Ferrand est si loin, 190 km, et les reliefs de cette étape marathon si élevés. Tandis qu'une poignée de courageux s'échappe en tête de course, les suiveurs assistent à une scène irréelle. Marcel Tigère, de l'équipe Dilecta, à bout de force, a refusé de quitter Limoges et la table du réfectoire. Jean Leliot a dû trouver les mots pour le convaincre de repartir, mais ses compagnons de course ont filé depuis une demi-heure. Alors, on fait grimper Tigère à l'arrière d'une moto pour les rejoindre dardard, récupérer un vélo et se remettre à pédaler sous l'œil de commissaire éberlué. Ils n'ont pas encore tout vu. La météo n'en fait décidément qu'à sa tête. Le ciel est bas, sombre, la nuit en plein jour. À Clermont-Ferrand, le public envahit le vélodrome municipal où l'arrivée est programmée à 17h. Mais les hommes de tête sont encore loin. Ils abordent en peine l'ascension du col des Goules, dernière difficulté avant le final. Il est près de 20h. Dans les lacets, les coureurs sont des ombres qui se dandinent. Les commissaires s'inquiètent. Rouler dans ces conditions devient dangereux. Les échappés foncent dans la lumière des phares et Louis Capu règle l'affaire au vélodrome, au sprint, avant 21h. Mais loin derrière, le cortège des attardés progresse lentement. On les fait stopper un à un. Pour baliser la route jusqu'au sommet, des torches ont été distribuées aux adolescents d'un chantier de jeunesse venu encourager les champions. Les coureurs sont transis. On veut les faire monter dans des camions. Les commissaires insistent. Pour eux, aucun doute, la descente dans l'obscurité est trop périlleuse. Dans l'hôtel des commissaires, l'organisateur démine la crise. Avec les commissaires, il réduit le parcours du lendemain entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, à travers les monts du Forez. La course zappe 3 cols et 70 km, puis le départ est retardé de 2 heures. S'il fait beau, tout ira mieux. Nous sommes donc à Saint-Étienne, avec une étape amputée d'un tiers de sa longueur. C'est moins dur, même si certaines routes élevées ne sont en fait que des chemins empierrés. Le lendemain, vendredi, sera un jour de repos à Saint-Étienne. Alors, les efforts coûtent moins aujourd'hui. La fin approche. Le Belge Neuville, vainqueur dans le Forez et leader du classement général, ne peut plus perdre le maillot zébré avant Paris. Saint-Étienne, donc, capitale du cycle et fief des vélos Mercier. Les coureurs paraissent à l'hôtel, déjeunent en terrasse. Pour leur machine, c'est révision générale. Un petit groupe de directeurs sportifs et de journalistes en profite pour prendre tôt la route vers Charles d'Aldon, non loin de Vichy. Ils doivent rencontrer Pierre Laval, le président du conseil dans sa demeure familiale. Devant l'auditoire, celui-ci salue l'audace du projet, décerne les satisfaits, pose pour les photos, assure qu'il y aura un autre circuit de France cycliste en 1943. On trinque au succès de la nouvelle compétition. Le lendemain, samedi 3 octobre, 6e jour de course, le peloton encore rétréci, mais la perspective d'en avoir bientôt fini pousse la caravane vers l'avant. La première moitié d'étape emmène les coureurs pour un contre-la-montre par équipe de Saint-Étienne à Lyon dès 7h du matin. Et là encore, il faut s'adapter. France Sport n'a plus que 2 représentants sur les 12 du départ. Ils rouleront avec ceux de l'équipe Alcyon. Après la rue Buffet à Lyon, il faut vite se remettre en selle pour une étape vers Dijon. Les péripéties du passage de la ligne de démarcation à Jardres ont été corrigées. Cette fois, Jean Leliot et ses commissaires ont assuré les démarches pour faciliter le retour en zone occupée à hauteur de Chalon-sur-Saône. Une fois les formalités accomplies, la trentaine de cyclistes encore en course se regroupent, puis filent vers la cité bourguignonne et le vélodrome local où Albert Goutal, le coureur de Dilecta, triomphe au dernier tour. Le dimanche, ultime jour de course. Le départ de Dijon, en raison de la longueur de l'étape, presque 400 km, est prévu avant le lever du jour à 5h30. En convoi sécurisé, le maigre peloton progresse pendant une demi-heure. Est-ce l'envie collective de revoir bientôt Paris ? Les échappés s'additionnent. On fonce. Dans l'après-midi, le Parc des Princes rempli accueille les 29 rescapés du circuit de France et réserve une ovation au Français Raymond Louviot, dernier vainqueur d'étape. Comme prévu, le Belge François Neuville garde son maillot zébré. Il sera à jamais le vainqueur du seul et unique circuit de France. Dans la France socialiste, du lendemain, Jean Leliot vante le succès de son épreuve et promet un programme plus riche encore en 1943. Mais il ne tiendra pas sa promesse. Le 10 novembre, après le débarquement allié en Algérie, l'occupant allemand décide d'envahir toute la France, illumine la ligne de démarcation et interdit bientôt les courses à étapes, jugées trop compliquées à organiser. Le circuit de France a fait long feu. Quant à Jean Leliot, plutôt épargné par les sanctions prises contre la presse collaborationniste à la Libération, il devient définitivement organisateur de courses quelques saisons plus tard, dont Paris-Nice dès 1951. L'épisode peu glorieux du circuit de France cycliste, attaché au sort du journal organisateur La France Socialiste, disparu en 1945, s'évanouit d'autant plus vite que le retour des compétitions à étapes prend de vitesse tout le monde dès 1946. Le Tour de France lui-même renaît le 25 juin 1947, refermant la parenthèse des années noires de la France collaborationniste.
C'était la chronique de Gilles Labourroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.